Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse.
Chers amis, chers auditeurs de Radio Présence, nous continuons de suivre notre ami David, qui est l'ami de Dieu d'abord. Ils sont fidèles malgré ses fautes et ses errements parfois. Mais David donc est escorté par un de ses fidèles soldats, au général Abishai. Il y a de très jolis noms, on a parlé d'Abigail la dernière fois particulièrement. Et là, c'est un Abishai. Et avec David, il se rend de nuit au milieu du camp de son adversaire, donc du roi déchu, avec une assurance qui ne pouvait lui venir que de son Dieu. Le texte note en effet « Personne n'en vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla, ils dormaient tous comme une torpeur venant du Seigneur, s'était abattu sur eux. » Donc, mystérieusement, un sommeil mystérieux, un peu comme celui qu'avait donc donné Dieu à Adam, quand il avait fait la petite opération d'une de ses côtes pour bâtir une femme pour lui, dans le deuxième récit de la création. Et Dieu avait anesthésié de la sorte donc Adam au moment de leur opération chirurgicale pour l'ablation de la côte destinée à être bâtie en femme. C'est Genèse 2:21. Et à son réveil, Adam put s'extasier devant Ève, l'os de ses os et la chair de sa chair, compagne donc qui lui était parfaitement assortie. Cette fois, l'anesthésie divine vise simplement à permettre aux deux compagnons de subtiliser la lance de Saül et sa gourde d'eau. Abishai, le seul général, dont veut en profiter pour tuer le roi déchu, mais David, en sa grande foi, ne saurait le lui permettre. Ne le tue pas. Qui pourrait porter la main sur loin du Seigneur, celui qui a reçu l'onction, loin, et rester impuni? Aussi vrai que le Seigneur est vivant, c'est le Seigneur qui le frappera, soit que son jour arrive et qu'il meure, soit qu'il descende au combat et qu'il y périsse. Mais que le Seigneur me garde de porter la main sur loin du Seigneur. Ne pas se réserver un temps pour la vengeance. C'est ce que prescrit le 23e instrument des bonnes œuvres dans le chapitre 4e de la règle de Saint Benoît. Vous savez que je l'ai vécu pendant de nombreuses années, 38 ans, et que je la lis presque tous les jours à un petit passage. D'autres maximes suivent un peu plus loin dans ce chapitre 4e de la règle de Saint Benoît qui vont dans le même sens. Ne pas rendre le mal pour le mal, ne pas faire de tort, mais supporter avec patience les torts qui nous sont faits. Aimer ses ennemis, ne pas maudire ceux qui nous maudissent, mais plutôt les bénir, soutenir persécution pour la justice. De telles recommandations ne concernent pas les seuls moines. Saint Benoît, dans sa règle et par sa règle, veut aider tous ceux qui veulent aller jusqu'au bout de leur baptême. Il nous faut en tout temps lui obéir au moyen des dons qu'il a mis en nous, dit-il au début du prologue de la règle. Le baptême et tous les autres sacrements, ainsi que les autres dons de la grâce qui leur font cortège, constituent un immense avoir divin qu'il importe de faire fructifier. Rappelez-vous la parabole, en effet, où nous apercevons, le Seigneur nous parle d'un intendant qui avait fait fructifier 10 talents, puis l'autre 5, et celui qui n'avait reçu qu'un l'a caché et ne l'a pas mis en valeur, il ne l'a même pas mis à la banque. Il nous faut donc en tout temps, écrit Saint Benoît, lui obéir au moyen des dons qu'il a mis en nous. Le baptême et tous les sacrements, ainsi que les autres dons de la grâce qui leur font cortège, constituent donc un immense avoir divin qu'il importe de faire fructifier. L'expérience montre que la règle de Saint Benoît, ce mystérieux et docte abrégé de l'Évangile, ainsi que la voyait Bossuet, est capable d'aider beaucoup de chrétiens dans le monde à vivre chaque jour leur foi, et tout particulièrement son prologue. Son prologue nous aide dans ce sens-là. Les lignes qui suivent, que je vais vous lire dans un instant, ne sont-elles pas capables véritablement d'entraîner quiconque veut appartenir au Seigneur ? Sangler, dit ce prologue de la règle de Saint-Benoît, sangler du ceinturon de la foi et de la pratique des bonnes œuvres, sous la conduite de l'Évangile, suivons donc ces chemins pour obtenir de voir dans son royaume celui qui nous a appelés. En 1986, il y avait déjà un moment, est paru un petit livre intitulé « La voie du chrétien dans le monde », VOIE. Titre anodin et passe-partout, que précise heureusement un sous-titre « À la poursuite de Dieu selon la règle de saint Benoît ». Le rapprochement du titre et du sous-titre paraît une incohérence. S'agit-il de vivre en chrétien dans le monde ou de se faire bénédictin ? Le paradoxe grandit quand on s'aperçoit que l'auteur, une femme, est anglicane, l'épouse du doyen de la cathédrale de Canterbury. C'est assez extraordinaire de voir ça. Esther Deval, car c'est son nom, le nom de son auteur, est venue à la règle de Saint-Benoît par le cadre de ce haut lieu bénédictin, qu'est Canterbury, où fut envoyé le moine Augustin et ses compagnons par le pape Saint-Grégoire à la fin du VIe siècle.